Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Kapi, la fréquence de la paix. Le consulat américain a annoncé la baisse de frais du visa des États-Unis pour les citoyens congolais mercredi dernier. La consule américaine affirme que les demandeurs des visas ne payera dorénavant que les frais de traitement de son dossier sans verser le $250 pour les visas comme auparavant. Que vous inspire cette décision? Et pensez-vous que cela annonce la reprise de la coopération entre la RDC et les États-Unis? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Polydor Basunga sur la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapuku, J.R. Lungembo Luabung, Angie Cordon est présente cette émission. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la suppression des frais de visa, des frais de traitement de visa, annonce déjà la reprise imminente donc de la coopération entre la RDC et les États-Unis, coopération qui s'est interrompue à une certaine période?
Merci, Gérard. Avant de donner ma réponse, je voudrais saluer toute l'équipe de la Radio Kapi, mais aussi saluer tous les Congolais. Aussi, je dis ceci, c'est que toutes les nations du monde des relations diplomatiques sur base des intérêts stratégiques de leurs nations. Il faut aussi savoir c'est qu'aujourd'hui, les grandes nations qui ont assuré des relations diplomatiques avec d'autres nations ont tenu compte des aspects sécuritaires, des aspects économiques, n'est-ce pas, mais aussi des aspects financiers. Il ne faut pas oublier que la RDC, sous la gestion de Mobutu, entretenait de très bonnes relations avec les États-Unis et vous avez vu le niveau de la stabilité sécuritaire et politique dans ces pays-là, et même si beaucoup ont pensé que ce régime était dictatorial. Nous avons connu un moment très difficile avec les États-Unis, le régime passé, mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les vrais besoins de rétablir les liens diplomatiques avec la RDC, le vrai besoin, c'est en fait la stabilisation de la RDC. N'oubliez pas, M. GR, et même tous les Congolais qui m'attendent à ce moment. Notre pays est déstabilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, et c'est pour cela que je félicite le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, il est en train d'analyser quel est le type de lien diplomatique réalisé aujourd'hui. Pourquoi? Regardez toute la sous-région, les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, ces pays, au moins même s'ils ont des petits soucis au sein de leurs États, essayent d'avancer et sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Mais nous, nous faisons les stand-by. Les États-Unis aujourd'hui aussi, n'oubliez pas la reprise des liens diplomatiques avec l'Israël, qui est un allié de taille des États-Unis. La RDC essaie un peu aujourd'hui de chercher à se retrouver. Et moi, je crois que non seulement il faut analyser cette histoire de visa, puisque je vais y revenir, il faut plutôt analyser cet aspect, n'est-ce pas, d'une manière très, très, très globalisante. Qu'est-ce que la RDC cherche vraiment aujourd'hui? Quelles sont les grandes priorités de la RDC par rapport aux autres nations du monde, et spécialement les nations qui nous entourent? Donc, moi, je dis, il faut sincèrement remercier le président de la République, son gouvernement, pour cette prise de conscience, puisque les États-Unis aujourd'hui, sur le plan économique sécuritaire, restent un État stratégique. Et donc, nous ne voulons pas dire aussi, il ne faut pas que les gens nous prennent des attentions, que les autres États ne soient pas stratégiques, mais pour nous aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, vous avez vu tout ce que nous avons connu à Kinshasa. D'ailleurs, je dis que ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, et surtout chez nous à l'est du Congo, il faut que le dirigeant puisse analyser le type d'alliance qu'il va faire avec d'autres nations. Maintenant, revenons sur votre question. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, le
le visa est même, quand vous voyez les gens quitter le pays pour aller ailleurs, ce n'est qu'au Congo que c'est le calvaire. Dans d'autres pays, ce n'est pas un problème. Lorsque quelqu'un veut voyager, nous avons toujours soulevé cette question dans cette émission. Quelqu'un veut voyager pour les soins, il a un peu de moyens, et on lui exige $250 qu'il doit débourser pour le visa, peut-être là $1000, vous voyez, il reste avec $750. Donc ça lui prend pratiquement les un quart de ce qu'il a. Moi, je crois aujourd'hui ce que le chef de l'État a fait, il faut vraiment le remercier pour ça. Puisque nous sommes en train d'aller vers l'internationalisation, même si les gens ne le croient pas. Nous sommes en train d'enlever les barrières entre les nations. Et donc, on doit maintenant alléger certaines difficultés que nous avons. On ne doit pas s'arrêter au niveau des visas. Les liens économiques, on doit les rétablir dans le sens où il y a une libre circulation et des personnes et des biens. Je crois que c'est ça la lire que les États-Unis et le Congo sont en train de prendre comme nations qui vont collaborer ensemble. Ça, il faut les féliciter. Il faut féliciter cela. Mais aussi, monsieur Gère, l'élément essentiel pour moi pour la reprise de la diplomatie entre la RDC et les États-Unis, c'est l'aspect de la sécurisation de notre pays. N'oubliez pas, l'armée. Nous avons vu avec le président Mobutu lorsque les phases de l'époque allaient faire la formation aux États-Unis, en Israël qui était un allié de taille pour les États-Unis. Nous avions une armée qui était respectée dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons pratiquement une armée que le peuple doit soutenir, bien sûr, mais une armée pour laquelle...
Alors, en des termes clairs, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique du lien diplomatique entre la RDC et les États-Unis, des moments forts et des moments aussi faibles?
N'oubliez pas, monsieur Gère, lorsque nous sommes sortis des indépendances, la Société des Nations que nous appelons aujourd'hui l'ONU, toujours c'était les États-Unis qui étaient au chapeau. Vous avez vu les efforts que la Société des Nations, aujourd'hui que nous appelons ONU, a apporté comme soutien dans le rétablissement de notre pays. Il ne faut pas ignorer une telle chose. Dans l'histoire politique de notre pays, nous avons connu des moments très difficiles. Il fallait que nous puissions faire partie de la SDN, la Société des Nations, pour que des nations qui étaient fortes, qui participaient dans la décision, dans la prise de décision au sein de la Société des Nations, qu'aujourd'hui nous appelons l'ONU, il faut les rappeler aux gens, et il fallait qu'il y ait des personnes à qui ces nations faisaient confiance. C'est comme ça, les gens ne comprenaient pas à l'époque du président Mobutu. Pourquoi toujours il avait le soutien des États-Unis, et même s'il y avait d'autres nations qui cherchaient toujours à nous déstabiliser. Nous avons connu ces problèmes avec les Rwanda, les Burundi, nous sommes en train de les régler, c'est une bonne chose. Mais maintenant, n'oubliez pas aussi, les Rwanda étaient un allié de taille pour les États-Unis. Lorsque nous, la RDC, nous prenons cette même alliée, il est possible que nous soyons tous alliés des États-Unis. Nous ne prêchons pas ici l'aliénation politique et même économique.
Alors, pardon, Sylvain, je reviens à vous. D'un moment à l'autre, accordez-nous deux minutes, le temps d'accorder la parole à Franck. Et puis, je reviens à vous parce que on va retracer un peu les moments forts et les moments de difficulté entre la RDC et les États-Unis. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour mon ami Gère, bonjour à compatriote Sylvain qui vient de parler avant moi.
Quelle est votre contribution, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je crois que je fais déjà mieux tout ce que mon compatriote Sylvain venait d'évoquer. L'initiative en soi, l'option de supprimer les frais et attrait aux obtentions des visas de $250, c'est déjà quelque chose qui soulagerait la plupart des Congolais qui seraient dans les besoins d'obtenir ce visa-là. Puis, par rapport à ce que Sylvain venait de dire, je crois que nous, citoyens congolais, on ne doit pas seulement nous réjouir de manière superficielle, voir seulement un aspect de ces apports, mais je crois qu'il faut revisiter l'ensemble des relations, les contours géostratégiques des relations entre la RDC comme État et les États-Unis. Parce que si nous devons revoir la situation interne de la RDC, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les calvaires dont nous sommes parfois victimes, c'est aussi, ça émane aussi, si pas de la mauvaise diplomatie, mais quelque part de certains flous qui existeraient entre nos dirigeants et certains dirigeants des États-Unis d'Amérique. Alors maintenant que les histoires sont en train de s'améliorer, on souhaiterait que cette amélioration soit vraiment une amélioration de fond et pas seulement une amélioration de surface. Puis, par rapport au chapitre de visa, moi, personnellement, ma prière serait, pendant qu'on est en train de parler de la suppression de ces $250, qu'on supprime aussi tous les préjugés qui existent, parce que quand un Congolais veut obtenir le visa d'un pays occidental, là je ne me réfère pas seulement aux États-Unis, même pour les Schengen, quand un Congolais demande un visa, quel que soit son rang parfois, il est parfois soupçonné jusqu'à un niveau où nous... Moi personnellement, je me pose des questions. Quel est ce mal que les citoyens congolais avaient fait pour souffrir, pour avoir, être victime de tels préjugés? Moi, je crois qu'on doit vraiment aller jusque vraiment en profondeur, encourager ce qui s'est fait, puis demander à ce que nos dirigeants en place puissent encore travailler davantage pour que la RDC reprenne sa vraie place. Parce que la RDC comme État, par rapport à sa position géostratégique, ne pourrait pas vraiment dépendre de certains États tels que nos petits, des États voisins. Mais si maintenant nous pouvons améliorer les formats de notre diplomatie, tout ce que ces gens-là cherchent à obtenir par l'entremise de nos voisins, ils pourraient négocier avec nous. Et à ce niveau-là aussi, nous devons avoir des gens capables de faire des négociations entre État et État et non entre État et un groupe d'individus. Parce que dans la plupart des cas, quand il s'agit des négociations entre les États forts et les États tiers-mondistes, les États forts négocient avec un groupe d'individus, ils arrachent des avantages des marchés, ils voient seulement leur progrès sans tenir compte de la situation de ces autres-là. Alors maintenant qu'on est en train de parler des améliorations, si vraiment il y en a, on espère déjà qu'il y en aurait, parce que la diplomatie a aussi ses contours et ses secrets. Nous demandons, nous plaidons qu'on aille vraiment en profondeur. C'est vraiment mon attente. Puis, la manière dont nous sommes parfois traités au niveau des consulats, que ce soit Maison Schengen Belgique, vous envoyez la prise en charge à quelqu'un, tous les papiers, vous faites voir que je travaille, je paye tous les impôts, je paye tout ici. Mais la personne à qui vous envoyez la prise en charge, on lui exige encore d'aller présenter ses bulletins de paye, de présenter la maison qu'il a, la voiture, donc il est toujours...
Voilà, merci beaucoup Franck, parce que là, comme on parle un peu de la dynamique, cette dynamique créée de la coopération entre la RDC et les États-Unis, avec Sylvain tout à l'heure, on parlait d'ailleurs des moments forts et des moments de difficultés, vous l'avez souligné, et comme les autres le pensent également, quand nous lisons certains commentaires, il y a vraiment l'annonce de cette reprise imminente de la grande coopération entre la RDC et les États-Unis. Merci beaucoup Franck. Fidèle Ayou Lumeya, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gér.
Vous êtes Congolais, vous avez eu à passer un bon moment, en tout cas aux États-Unis, comme résident. Aujourd'hui, vous êtes au pays. Est-ce qu'on peut dire que la suppression des frais de visa annonce réellement la reprise de la coopération entre la RDC et les États-Unis, coopération coupée à un certain moment?
Oui, vous avez totalement raison. C'est une reprise de la coopération dans les plus grands détails qui manquaient, qui est là, surtout du côté que vous soulignez de diminution des frais de visa pour les États-Unis et pour le Congo. Parce qu'il n'y avait pas que les Congolais qui payaient cher les $250. C'est un principe de réciprocité. Nous vous taxons selon ce que vous nous taxez. Donc, nous qui avons vécu aux États-Unis, et quand nous venions au pays, on devait aller à l'ambassade de Kinshasa pour payer les $250 pour venir en tant qu'Américain. Mm-hmm. Mais aussi les Américains qui venaient aux États-Unis, c'est le montant qu'ils payaient. Maintenant, avec les $160, c'est un grand ouf de soulagement parce que vous sauvez... quoi, pratiquement $90 ou $90. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui travaille aux États-Unis. Si du coup on vous dit non mais écoutez, vous ne payez plus de $150, c'est 160. Et aussi il faut ajouter Gér que nous qui sommes des Américains d'origine congolaise, nous ne payons plus à l'ambassade, vous ne voyagez plus à Washington, vous venez à Kinshasa et ça c'est encore un grand ouf de soulagement de savoir que non, je peux payer le visa du Congo à Angélie. Donc là, nous entrons vraiment dans le concert de toutes les nations comme ça s'est fait ailleurs. Nous félicitons le président, nous félicitons aussi les États-Unis pour avoir pensé à ces détails plus importants pour le voyageur entre les deux pays.
Alors, comme je disais tout à l'heure avec Sylvain, il y a eu certes des moments forts, mais aussi des moments de difficulté entre les liens diplomatiques de la RDC et les États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose dans cette relation entre les États-Unis et la RDC depuis l'accession de notre pays à l'indépendance?
Il y a eu, parmi les moments très forts de cette relation, disons ça date depuis longtemps, cette relation, il a eu des temps forts, ceux qui ont vécu dans des missions protestantes, vous vous souvenez, il y a des enfants de missionnaires qui sont nés chez nous. Récemment, j'avais reçu à la maison un enfant de missionnaire qui est né dans mon village. Il a 70 ans, il parle Kikongo tout à fait. C'est un cousin américain, comme on l'appelle. Donc, ça montre seulement au niveau des relations humaines que le bénéfice de la relation, de la bonne diplomatie entre Américains et Congolais, et que nous avons des Américains, Américains-Congolais, des enfants, des Américains qui sont nés dans nos villages, qui ont grandi, et ils sont rentrés aux États-Unis, ils travaillent, ils se souviennent toujours du Congo, ils amènent leurs enfants pour venir voir les villages où leurs grands-parents ont travaillé. Ça, c'est positif. L'autre grand moment, nous qui sommes à Kinshasa, nous allons nous rappeler qu'il y avait une ambassadrice américaine ici qu'on appelait Tantine. J'ai oublié son nom.
Melissa Wells. Qui à l'époque avait vraiment dans cette période de faveur entre les États-Unis et la RDC, en tout cas à l'époque Zaïre, 90, il a tenu à ce que la dictature puisse s'arrêter dans ce pays.
Oui, oui. Ça, c'est pour faire voir combien une Américaine peut devenir la tantine des Congolais. Elle était dans les incidents qui s'est passé à Kinshasa. Elle était dans la maison déjà pour visiter. C'était le temps fort. Il y a eu des moments de refroidissement. Depuis 18 ans, nous avons remarqué que l'ancienne administration congolaise a isolé le pays avec presque tout le reste du monde. C'était une diplomatie très froide. Il n'y avait pas trop d'activité, il n'y avait pas peu d'activité, il n'y avait rien. C'était comme si l'aspect diplomatique était froide, surtout avec les Américains. Maintenant, nous reprenons cette diplomatie-là à sa vive allure avec de nouveaux thèmes. C'est ce qui est très très important de souligner ici. Il y a une convergence de vues entre la diplomatie américaine et congolaise du temps du président Félix, où la jeunesse est à la une. Le président lui-même l'a souligné que en dehors des femmes, le pourcentage de jeunes est très grand. Et les Américains veulent voir comment encourager cette jeunesse à ne plus être une jeunesse qui ne fait rien, mais une jeunesse qui profite de la relation entre Américains et Congolais. Il y a beaucoup d'échanges qui sont en train de se faire où les jeunes Congolais qui sont dans le monde technologique bénéficient de
la formation, de la formation
aux États-Unis. Nous autres, nous avons étudié là-bas, on a travaillé là-bas. Donc, et puis aussi, il faut souligner ça, la diaspora congolaise pour le moment aux États-Unis, nous sommes écoutés plus qu'avant. Quand il y a des décisions que le gouvernement américain veut prendre, elle consulte certains
des Congolais, des compatriotes,
pour aller au département d'État pour donner notre vue sur la politique américaine sur le Congo. Ça, c'est une grande ouverture.
Merci beaucoup.
Et puis, ici, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ici, au Congo aussi, nous avons remarqué aussi que quand nous rentrons, comme la diaspora qui vient s'installer au pays, il y a des grandes ouvertures. Nos ministres, il faut les féliciter. Notre diplomatie s'ouvre aussi à écouter aussi nos points de vue par rapport à la politique du pays envers les États-Unis. Donc il y a ces ouvertures qui se font que nous devons vraiment applaudir.
Merci beaucoup Fidel, vous avez parlé de la tantine Melissa Wells, il y a eu aussi un coco à l'époque, Coco Swing. Donc pour dire que finalement il y a eu des bons moments dans la diplomatie, dans le lien diplomatique entre la RDC et les États-Unis. Merci beaucoup Fidel, on va revenir à vous Sylvain. Sylvain, vous êtes à Bunia, vous avez suivi les uns les autres parce que c'est vous qui avez ouvert les débats. Aujourd'hui c'est vrai, on était au moment où on parlait des moments forts et des moments de difficulté. Est-ce que vous pouvez évoquer quand même quelques moments difficiles de ces liens diplomatiques entre la RDC et les États-Unis?
Hier, je crois qu'il est extrêmement important, puisque le peuple doit être édifié.
Je voudrais saluer M. Fidèle et au même moment aussi saluer M. Franck, qui a d'ailleurs soulevé un élément très essentiel. Les diplomaties sont fondées sur les modes de gouvernance. Vous avez suivi là avec le président, disons l'ancien président Kabila, il y a eu pratiquement un certain réchauffement négatif des climats entre les États-Unis et le Congo. Pourquoi ? Question de violation des droits humains, question de bonne gouvernance, répartition des richesses entre les citoyens, l'enrichissement illicite. Ce sont des questions qui surchauffent les relations diplomatiques entre les États. N'oubliez pas, je l'ai dit au début de cette émission, nous évoluons dans un cercle extrêmement ouvert. Ça veut dire que nous dépendons, les nations dépendent les unes des autres. Et il ne faut pas aussi oublier une seule chose. Il y a des nations modèles qui dirigent les autres, puisque le nord et le sud ne seront jamais comblés. L'est et l'ouest ne seront jamais comblés. C'est que les gens n'ont jamais compris, puisqu'à un moment donné, vous avez suivi, lorsque l'ancien porte-parole de l'ancien régime, M. Lamer Mende, en train toujours de dire, on ne doit pas s'ingérer dans les questions de la souveraineté de la nation, mais non, on ne s'ingère pas dans la question de la souveraineté de la nation, puisque vous avez besoin de l'aide américaine que vous avez, eh bien, il faut mettre en place des styles de politique qui garantissent les fonds que vous avez reçus de ces nations-là. Et ça, ça a réchauffé les relations entre le Congo et les États-Unis. Il y a des gens qui pouvaient dire n'importe quoi. Vous venez de suivre un très beau témoignage de M. Fidèle. Et je dois dire aussi une seule chose, puisque c'est extrêmement important. Lorsque vous êtes dans les conseils des nations et que vous êtes incapable de pouvoir impulser une politique de nature à garantir la sécurité de votre pays et des autres nations, eh bien, vous êtes en difficulté.
Merci.
Nous avons eu de très grandes relations avec de très grandes nations que nous avons brisées nous-mêmes par le fait que notre comportement dans les systèmes de gouvernance n'honorait pas l'humanité. Mmh. Puisque l'humanisme aujourd'hui est un courant de gouvernance internationale. Toutes les nations doivent s'insérer dans cette philosophie pour que la redistribution des non-nations bénéficie aux citoyens du monde. Puisque aujourd'hui, moi j'ai toujours dit aux gens, moi Sylvain, je ne suis pas congolais, je suis citoyen du monde. Et donc il faut que les politiques que nous mettons en place puissent garantir certaines relations, et c'est pour certaines relations diplomatiques, et c'est pour cela que je demande au peuple congolais d'appuyer la politique du président Félix. Les relations même entre le Congo et l'Israël, messieurs les journalistes, c'est très important qu'on en parle.
Voilà, on va y revenir prochainement, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Il est temps d'accueillir notre invité qui nous a rejoint également à ces débats. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre aussi de composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour l'intervention en direct.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Suivez votre émission chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter de lundi à jeudi à 21h et samedi à 11h05.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pour tout requérant, en tout cas celui qui sollicite de voyager pour les États-Unis, et notez que finalement les frais de traitement des dossiers sont maintenus, mais les frais de visa sont supprimés. Et pensez-vous que cette décision annonce la reprise de la coopération entre la RDC et les États-Unis, et quel impact cela aura, en tout cas la reprise de cette relation sur les vécus quotidiens? Nous avons en ligne Augustin Mangemossi. Bonjour Monsieur Mangemossi.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour aux auditeurs, comment vous allez?
Très bien, merci. Vous êtes chargé de cours à l'université, expert en relations internationales et en géopolitique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une très bonne décision qui annonce effectivement la reprise de la coopération entre la RDC et les États-Unis, coopération coupée à une certaine période?
Bon, de toutes les façons, suivant les auditeurs, aussi les intervenants, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut s'allier qu'avec les puissants. Hein, la géopolitique mondiale nous enseigne que ce sont des intérêts qui priment sur les rapports à la fois bilatéraux ou multilatéraux entre les États. En fait, pour les Américains, il y a un intérêt de venir au Congo.
plutôt de revenir au Congo. Parce que les Américains sont là depuis 1960. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit parler des Américains. Je peux vous donner l'exemple, c'est l'ambassade américaine au Congo. C'est une très grande ambassade. Ce qui démontre l'importance de ce pays sur le plan géostratégique pour les Américains. Et il n'y a pas plus longtemps, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, il a dit que la RDC menaçait la sécurité nationale américaine. C'est-à-dire que pour les communs des mortels, nous devons comprendre que ces grands pays, ces beaux pays, la RDC, constituent aussi le souci du gouvernement américain. Ils veulent qu'il y ait stabilité dans la région. Vous devez vous rappeler que depuis 60 ans presque, on est dans une région où il y a une instabilité terrible, chronique, stabilité de légitimation, mais aussi instabilité sur la légitimité des pouvoirs. Donc, pour les Américains, négocier, coopérer avec les Congolais n'est qu'une très bonne chose. Le chef de l'État a compris, il a compris qu'il fallait profiter de cette occasion pour tisser ce que lui-même appelle les relations stratégiques entre notre pays, la RDC, et les États-Unis d'Amérique. Vous savez qu'ils ont signé une déclaration conjointe le 12 avril qui porte sur 6 points. Mais quand vous lisez les 6 points, vous allez comprendre que les Américains sont bel et bien revenus en puissance. Ils veulent négocier, coopérer, profiter aussi de la RDC. Et l'instabilité chronique de la région des Grands Lacs ne peut ou n'est pas constituer le souci des Américains, mais les Américains parlent. Et pour imposer la paix dans la région des Grands Lacs, il faut associer la RDC. Vous savez, l'erreur avec la communauté internationale, c'est quoi? C'est que pendant plus de 10 ans, ils ont pensé imposer la paix dans la région Salé-Congo. Et ils ont pensé sous-traiter les libertines congolais. Malheureusement, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas mettre les Congolais de côté. On doit associer les Congolais. Raison pour laquelle le gouvernement américain a compris. Il faut plutôt privilégier l'axe Kinshasa pour, à plus long terme, imposer la paix dans la région et ainsi contribuer au développement de l'Afrique. Donc moi, pour moi, c'est une très bonne chose. On parle des visas, on parle de la mobilité des citoyens, ça c'est rien. Le plus grand problème, c'est arriver à signer un grand partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Je donne deux exemples. Un exemple, sur le plan de l'armée. Tout le monde parle de l'armée. Vous savez que nous avons une très grande armée en RDC. Les hommes sont là. Ce qu'on appelle le capital humain est là. Et le problème, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la notion du temps. Le temps a changé. Est-ce que nous avons cette armée des années 60-70? Non! On doit maintenant avoir une armée des années 2030-2050. Et si nous pouvons peut-être négocier en ce sens-là, c'est déjà une très bonne chose qu'on se prépare pour les guerres de lendemain. Nous avons l'eau. Combien de gens ils ont besoin d'eau? Vous pensez que les menaces ils vont se terminer à l'Est? Non! Les menaces ne sont pas simplement sur les ressources minières. Et prenez aussi de l'eau. Prenez la forêt. Nous avons des menaces. Je dois vous rappeler, hier, que la RDC, c'est un espace à haut risque. C'est un espace qui est contigu, un espace à haut risque. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de 9 voisins. 9 voisins. Je ne sais pas s'il y a combien de pays qui ont 9 voisins. Et le tandis même des kilomètres qui nous séparent avec nos voisins. Nous ne pouvons vivre que avec ces voisins-là.
Alors, si nous souscritons rapidement, professeur Manguemossi, si nous scrutons, nous rappelons que vous êtes chef des travaux, rapidement les 6 points que vous venez d'évoquer, et je prends juste le tout dernier, ouvrir un coin américain à Lubumbashi d'ici la mi-avril, lors de la visite de l'ambassadeur, comme pour le coin américain récemment inauguré à Goma. Alors, tout ça, c'est dans le cadre de la recherche d'autres possibilités d'approfondir les liens culturels. Alors, il y a le 5e point qui encourage les investissements américains en RDC. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec la suppression des visas, les Américains viendront investir en masse en RDC?
Monsieur J.S., avant de venir, il faut instaurer la paix. S'il faut même imposer la paix. Un Américain ne peut pas venir dans un pays où il ne sait pas quoi faire après 30 jours, un mois, une année. On investit que là où il y a la paix,
Le plus grand problème pour les, même pour les Américains eux-mêmes, c'est d'arriver à rétablir la paix sur l'étendue du territoire national. Or, ce ne sont pas les Américains qui doivent le faire. C'est nous, c'est les FARDC. C'est-à-dire dans les points qui ont été signés, le point le plus essentiel pour moi ne serait que le point qui est relatif à la construction de l'armée, de la sécurité. Parce que si nous arrivons à sécuriser les territoires nationaux, y compris Beni Butembo, parce que c'est la RDC, c'est pas en dehors de la RDC, les Américains peuvent aussi aller là-bas. Nous, c'est là où nous allons peut-être développer le pays, et les Américains ne seront là que pour fructifier leurs investissements.
Voilà.
Ils ne peuvent pas investir dans l'inconnu.
Merci beaucoup. Alors, Augustin Balguemo, si je comprends bien le besoin, c'est que c'est traduit en termes de la stabilisation de la RDC. Si je comprends bien.
Prenez le point 2.
Renforcer les relations entre, en matière de défense.
Renforcer les relations entre la RDC en matière de défense.
Oui.
Ils ont mis ça comme un point 2. C'est
oui.
pas un point 5. C'est pas un point 6. Les Américains comprennent. Ils comprennent qu'il faut arriver d'abord à sécuriser non seulement les Congos, mais la région. Et les Américains pensent qu'ils peuvent maintenant le faire avec les Congolais. Ils pensent qu'ils peuvent le faire avec les Congolais. Parce que c'est pas la doctrine des années 80-2010. La nouvelle doctrine voudrait que les Congolais soient associés à la construction de la sécurité, de la défense et du développement de l'Afrique. C'est là où nous devons maintenant profiter de l'occasion, comme le chef de l'État clairvoyant a déjà compris la géopolitique mondiale. Il est en train d'insister pour que le partenariat tienne. C'est ça pour moi l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que nous arrivons d'abord à ramener les Américains au Congo et nous profitons de la technologie américaine, même de la sous-traitance américaine, pour arriver à développer notre pays. Pour moi, ce n'est qu'une bonne chose.
Voilà. Alors, on va revenir aux auditeurs. Donc, si je comprends bien pour vous, cette reprise de liens diplomatiques aura un impact sur le territoire national et aussi, en tout cas, de l'autre côté du Grand Lac. Et ainsi, la prophétie de Franz Fanon pourrait se réaliser et pour dire les Congos, c'est dans l'Afrique, c'est en forme de revolver dont la gadget se trouve au Congo.
Oui, M. Gilles, quand vous parlez de la prophétie de Franz Fanon, vous devez comprendre une chose, que la prophétie de Franz Fanon s'appuyait sur la gâchette. Or, la gâchette congolaise a été abîmée entre les années 80 et les années 2000. La gâchette a été abîmée. Il faut chercher qui va tirer, qui va appuyer sur la gâchette. Mmh. Je pense que le chef de l'État
congolais
essaie maintenant d'appuyer sur la gâchette. Ce qu'il faut faire, ce que lui-même, le chef de l'État, doit faire, c'est d'arriver d'abord à construire ce qu'on appelle un partenariat stratégique. On ne peut pas aujourd'hui, mais pourquoi les Chinois cherchent la défense? Pourquoi les Chinois cherchent la sécurité? Alors qu'ils sont sur le plan économique presque la première puissance mondiale. Ils savent que l'économie, le commerce ne peut aller qu'avec la sécurité et la défense. C'est ça.
Alors, on va revenir à vous pour un peu interroger le passé, avoir quels sont les moments forts et les moments difficiles qu'a rencontré ces liens diplomatiques entre la RDC et les États-Unis. Nous ouvrons encore les standards pour accueillir Justin, qui est à Fungurume, Félicien Kindula à Kinshasa. Justin, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, bien-aimé JR, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi qu'à notre invité.
Quelle est votre contribution?
Oui, sans toutefois vous cacher, je suis très très content que le développement de notre pays se repose sur les épaules des Américains, si je ne peux pas extrapoler. Puisque la Belgique s'est concentrée à exploiter le caoutchouc. Et il a terminé, maintenant c'est une période de cuivre et le cobalt. Et ce sont les Américains qui ont mis le pied en première position pour l'exploitation de cuivre et le cobalt. Je vais d'abord, avant d'entrer en matière, je vais répondre à notre invité qui a dit que pour attirer les investisseurs, il faut la sécurité. Notre insécurité ici au Congo ne peut pas inquiéter un Américain de venir investir. D'ailleurs, c'est un Américain qui, si l'Amérique s'est décidée de mettre fin à notre insécurité, c'est dans peu de temps, l'insécurité va terminer. Prenons l'exemple, il y a les Chinois qui entrent en masse, or qu'on parle toujours de l'insécurité, sont en train d'évacuer à leur occupation sans toutefois être inquiétés. Là, vraiment, avec notre invité qui l'écarte, c'est à nous d'améliorer le climat des affaires, qui est gagnant-gagnant. Si on se met en accord que vous allez profiter ceci et nous, nous allons rester avec ceci, les portes seront ouvertes. Et comme on vient de supprimer le visa pour l'Amérique et le Congo, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est parmi les pas pour attirer les investisseurs. Dire que non, nous allons terminer la guerre d'abord et ces gens viendront, là, on est en train de perdre l'État inutilement. Ce sont les actes pareils qu'il faut poser et ce sont les initiatives pareilles que les Congolais doivent vraiment initier pour attirer les investisseurs. Mais... je vais, avant de donner mon exemple, oui, messieurs, avant de donner mon exemple, je vais parler de Romulus et Rémus. C'est une histoire connue par tout le monde. Si vous voulez grandir, il faut avoir une éducation. Et Romulus et Rémus qui avaient grandi à côté d'une louve, en fin de compte, ils criaient, ils poussaient des cris. Et si notre pays cherche à se tenir debout, il faut ouvrir les portes aux expatriés qui viennent nous apprendre, qui viennent laisser une culture. Et pour citer, je vais vous donner l'exemple d'un village qu'on appelle Nyembo-Mpungu, dans les territoires de Bukama, de Passé-Kabondo, là où il y avait un missionnaire, l'évêque catholique qui avait appelé deux Américains, il y avait John Wesley et Crowen. C'était dans peu de temps que ce village était envié dans les territoires de Bukama. Il y avait le plein d'aviation, il y avait la construction. Et même au moment que je vous parle, il y a l'électricité qu'on ne parle jamais, là où on ne connaît pas les verbes de coupure, de laissage, et ainsi de suite. Suite à ces gens, il y avait le changement des mentalités. Beaucoup de gens ont ouvert les portes. Et nous sommes sans ignorer que les Congolais cherchent à connaître beaucoup l'anglais. L'anglais, c'est langue de businessaires. Et le français, c'est langue officielle. Là, on va parler dans les bureaux. Mais si pour le business, donc vous êtes ipso facto appelé à connaître l'anglais. Vous voyez que notre anglais est en train de moisir, monsieur Georges, je ne vous cache pas. Et on est en train de lorgner. Si je vois seulement un blanc, je m'approche de lui pour lui poser. Et quand il saura que celui-ci communique avec moi, si je peux trouver quelque chose. En tout cas, ça
merci va beaucoup. Voilà, merci beaucoup Justin d'avoir appelé de Fungroumé et vous avez salué comme vos prédécesseurs la reprise de ces liens diplomatiques entre la RDC et les États-Unis qui passent notamment par la suppression des frais de visa, le maintien des frais de dossiers, les frais administratifs, parce qu'il faudrait quand même les souligner, nous l'avons dit en début de cette émission, les frais des visas des 250 sont supprimés et les Américains gardent le frais des $160 que nous payons tous, en tout cas à EcoBank, avant d'aller à l'interview. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Félicien Kindoula, bonjour et bienvenue de Parole aux auditeurs.
Bonjour Gérard, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre contribution, Félicien?
Moi, j'ai dit d'abord que c'est un coup de chapeau qu'on doit faire au président de la République parce que ces gens, les gestes montrent qu'il y a effectivement un changement parce que les Congolais aspirent au changement. Il faut qu'on sente quand même des actes qui montrent qu'on n'est plus dans l'ancien régime et maintenant on est passé à autre chose et on allège un peu la misère d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment à féliciter comme un geste. Moi, je ne vais pas parler de la reprise et de la coopération ou de la diplomatie avec les États-Unis parce que ces gens-là, au gré de leur mère qui sont en relation avec nous ou qui les rompent les relations, c'est difficile de comprendre ce qu'ils font. Mais ces gestes-là, c'est ça que moi je félicite. C'est un effort que le président de la République a fait parce qu'on parle de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose qu'on gagnait de leur côté pour qu'eux aussi puissent perdre ce qu'ils gagnaient de notre côté. Et si on peut aller dans ce sens-là, dans tous les domaines, on peut alléger la misère des Congolais. Et quand nous voyons, par exemple, du côté de la douane, nous payons très cher alors que notre pouvoir d'achat et notre vie ne permet pas que nous puissions mener cette vie-là quand on peut importer quelque chose et tout ça. Dans beaucoup de domaines, vous achetez un permis de conduire, vous achetez un passeport, tout ça, c'est trop cher par rapport à d'autres pays. C'est là où le président de la République doit aller petit à petit pour qu'il puisse résoudre tant soit peu les problèmes de la misère du peuple. Mais ce que moi je demande du côté de la diplomatie, c'est que ces gens-là nous respectent, comme à l'époque des Zaïres, la République des Zaïres. Parce que pour avoir un visa, et qu'elle a dit déjà, je crois que c'est Franck qui l'avait dit, pour avoir un visa pour aller aux États-Unis, une dame a raté de voyager. Heureusement qu'on a même annulé cette histoire de la journée des femmes aux États-Unis. Parce qu'il dit qu'il faut avoir déjà eu un visa. Mais comment avoir déjà eu un visa si on n'a pas voyagé pour une première fois? Une dame qui est supportée par l'entreprise, qui travaille, qui est mariée, qui a tout, et donc c'est toutes les preuves que c'est une femme responsable, on lui refuse le visa parce que c'est la première fois qu'elle voyage aux États-Unis. Ça, c'est pas nous respecter. Et nous avons vu même du côté Schengen comment nous sommes traités pour avoir des visas. Mais que le président de la République fasse un effort de ce côté-là, que nous soyons respectés comme tout le monde, parce que vraiment, c'est les autres qui ont besoin de venir chez nous parce qu'il y a des richesses à venir chercher ici. C'est pas vraiment nous, les Congolais, qui avons besoin d'aller chez eux. Si ça marche chez nous, vraiment, nous n'aurons pas besoin de cet exode-là. Alors qu'ils comprennent de cette immigration plutôt, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas marcher sur les Congolais comme ils le font. Et c'est de ce côté que j'insiste, que le gouvernement, que le président de la République, dans sa politique, qu'il puisse faire beaucoup d'efforts pour réduire un peu trop d'exigences plutôt dans l'octroi des visas pour sortir de cette pays.
Merci beaucoup.
Les responsables courent des lières, ils font des pieds de gris et tout ça, pour seulement avoir un visa, 15 jours vous revenez, 20 jours vous revenez, et moi, à un moment donné, je m'étais révolté, j'ai refusé de voyager pendant plus de 5 ans.
Merci beaucoup, Félicien. Amissi, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution, Amissi?
Ok, ma contribution est claire, monsieur le journaliste. Et la réduction de frais de visa, de l'obtention de visa des États-Unis, c'est, pour moi, je considère ça comme un signal fort qui prouve que les États-Unis veulent collaborer, veulent traiter avec les Congolais. Vous savez, si je me rappelle bien des temps forts des États-Unis, de notre coopération avec les États-Unis, vous savez, rappelez-vous de la base de Kamina Base. Vous voyez, quand il y avait de bonnes relations avec les États-Unis, à l'époque du Zaïre, Mobutu, je me rappelle bien, c'était le grand dictateur, les Zaïres étaient une grande nation. Tous les pays limitrophes respectaient les Zaïres à l'époque. Et Mobutu était devenu un président fort, puissant, parce qu'il entretenait de bonnes relations avec les États-Unis. Et notre armée était forte, parce que notre armée entretenait de bonnes relations avec les États-Unis. Maintenant, pour citer monsieur le journaliste, vous savez, les bonnes relations avec les États-Unis ou les relations avec les États-Unis, ce n'est pas aujourd'hui qu'avec les situations de 250 qu'on va dire, voilà, on veut reprendre les relations. Ce qui prouve cela, il y a un ambassadeur américain à Kinshasa. Il n'est pas venu aujourd'hui, il reste toujours à Kinshasa. Ce qui est très important, monsieur le journaliste, même si on peut supprimer les 250, le changement de mentalité des Congolais, ce que moi je souhaite, que les Congolais changent les mentalités. Nos comportements ne sont pas bons à l'étranger. C'est pourquoi quand on demande, il y a beaucoup de frais pour avoir un tel visa, c'est une façon de nous décourager de voyager. Parce que nous, les Congolais, nous nous comportons très mal à l'étranger. C'est pourquoi le signal est là fort des États-Unis de supprimer les 250. Ça nous rappelle, ça nous interpelle, nous les Congolais.
De changer notre mentalité. Merci beaucoup, Amissi. Alors, on revient à vous, Augustin Mangemossi. Vous avez suivi les uns et les autres. Mais je crois que le souci aujourd'hui dans ces débats, c'est d'évoquer aussi les moments forts et les moments difficiles de nos liens diplomatiques avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut quand même se souvenir de quelque chose dans l'État et dans l'espace?
Oui, monsieur Gérard, bonjour, bien. Je voulais, l'auditeur qui a parlé, il vous a cité les moments forts, la base militaire de Kamina. Mmh. Voilà, base militaire de Kamina, l'armée, le FA 20 à son temps, les forces armées zaïroises à son temps, avec la coopération américaine. Bien sûr, il y avait des Français, il y avait des Belges, mais tout le monde savait que c'était plus la coopération américaine. Ça sont des moments forts. Les moments forts, c'est aussi la démocratisation de ce pays. Rappelez-vous,
en 1990, c'est plutôt les Américains, Madeleine Albright, rappelez-vous de Bill Richardson. Donc il y a des moments forts de la diplomatie américaine au Congo. Les Américains, vraiment, ils ont aidé le Congo. Ça, nous devons savoir que dans ce jeu de coopération entre les Américains et le Congolais, c'est comme en guillemets entre les États-Unis d'Amérique et Israël. Donc les Américains, ils ont toujours un penchant pour les Congolais. Le problème, c'est plutôt la partie congolaise qui n'arrive pas à saisir les bons, qui n'arrive pas à comprendre le moment pour tirer les bénéfices de la coopération en question. Présentement, et tout le monde le sait, que le chef de l'État a le soutien de la partie américaine. D'ailleurs, l'actuel ambassadeur, on l'appelle entre guillemets Nzeta, un nom Congo, c'est pas un nom américain, ce qui démontre que ce monsieur a des affinités avec les Congolais. Bien merci. Vous avez déjà un ambassadeur qui vous comprend, qui comprend même les réalités culturelles de votre pays. C'est un bon ambassadeur. Je fais que plaider à votre faveur. Il y a Nagui qui est là, qui était toujours là. Il y a Pam, Peter Pam, qui sont là, ils ont toujours été là. Donc, en fait, l'administration américaine a choisi des gens qui comprennent un peu la donne Afrique. Mais la réalité, cher J.R., un ami tout à l'heure a dit climat des affaires. Mais quand vous-même vous parlez de climat, c'est-à-dire quoi? C'est la sécurité. Il faut sécuriser les affaires, les investisseurs. Il faut arriver à construire un havre de paix pour que les investisseurs qui viendront se sentent qu'ils sont chez eux. Ils peuvent sillonner sur l'étendue du territoire sans avoir peur des ADEP, des maïmaïs ou des groupuscules qui font encore la loi à l'Est. Heureusement que les forces armées sont en train de les traquer. Bien merci. Ici là, peut-être, ils vont remporter encore des batailles, des victoires, pour que le Congo arrive quand même à donner aux frères de l'Est le sourire de pouvoir se dire qu'ils sont dans le territoire, à l'intérieur de notre espace. Donc moi, je pense que l'appui du gouvernement américain au programme de changement prôné par le chef de l'État, c'est une bonne chose. L'attitude du chef de l'État quant à son rapport ou à sa coopération avec les États-Unis d'Amérique, c'est encore une très grande nouvelle, ou une bonne chose. Maintenant, il faut arriver à concrétiser les vœux. Ce ne sont que des vœux. Les vœux doivent se matérialiser. Voilà un exemple. Le problème de visa, maintenant, c'est résolu. Tant mieux. Comme le problème de visa est résolu, nous avons encore des problèmes. Arriver à équiper les forces armées, arriver à amener les investisseurs au Congo, nous avons des espaces verts. Nous avons quand même la richesse qui est presque à l'état brut. Il faut arriver à industrialiser les Congo. Les Américains peuvent le faire. Ils peuvent amener leur savoir-faire, la haute technologie. Pourquoi continuer à importer le cobalt à l'état brut? Pourquoi? Pourquoi continuer toujours à leur vendre le cuivre à l'état brut? Pourquoi? Ce sont des questions que la partie congolaise doit poser à la partie américaine. Nous sommes dans une coopération stratégique. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes à un état un peu presque anachronique. On est vraiment en retard. On est presque sous-développé, on va te le dire. Mais comment arriver à vous concurrencer dans un
processus. Voilà. Alors, peut-être ce sont des chiffres qui parlent. Actuellement, comme vous l'avez dit, l'actuel ambassadeur est appelé Nzita, qui s'est approprié des noms congolais. Donc, on peut dire, effectivement, il est vraiment proche des Congolais. Il y a 15 ans, on a parlé la même chose avec Coco Swing. Et c'est comme si il n'y a pas de hasard dans l'histoire de lien diplomatique entre l'RDC. Il y a 30 ans, on a parlé, donc 15 fois 2, il y a 30 ans, on a parlé de Melissa Wells, comme on l'a appelé, on l'a surnommé Tantine, et comme pour dire, chaque près de 15 ans, il y a un événement qui se passe dans les liens diplomatiques entre la RDC.
Voilà, JS. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est le moment maintenant où le chef de l'État a profité de la situation.
En c'est fait, une opportunité.
Il a hérité d'une situation qui lui était favorable. C'est-à-dire, un pays presque en train de se chercher comment se développer, il arrive avec de bonnes intentions. Il n'a qu'à continuer, mais il ne peut pas continuer avec des V.
Il doit maintenant matérialiser le vœu. Moi, je pense que le chef de l'État doit impérativement demander aux Américains de soutenir l'armée. Deuxièmement, qu'ils nous amènent leur savoir-faire, la haute technologie. Nous pouvons nous développer en moins de 5 ans. Nous avons un pays potentiellement riche. Nous avons une population qu'on peut appeler active, qui est prête, mais une population presque clochardisée, chômeur, une population qui ne sait travailler alors que c'est une population qui est intelligente. On doit arriver à donner du travail aux Congolais. Et les Américains peuvent le faire. Vous le savez, ce sont eux qui ont des industries, ce sont eux qui ont des multinationales qui pèsent dans la bourse mondiale. Ils peuvent le faire, ils peuvent revenir au Congo en force. Ils peuvent investir des milliards et ce pays va se développer à un laps de temps. Or, le développement du Congo, selon la vision de France Fanon, développera l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un développement. Vous voyez vous-même des zones économiques. Mais qu'est-ce que ces zones économiques produisent? Rien, rien. Mais prenez même l'Afrique de l'Ouest, là, avec leur histoire là de la CEDEAO.
CEDEAO.
Ils sont là, ils sont en train de se patauger. Mais attendez le jour où le Congolais construira un marché. Vous allez voir que l'Afrique va se développer. Parce que le Congo n'a pas encore construit un marché. Mais le matin où les Congolais construiront un marché, ce marché partira de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, de l'Égypte jusqu'à Namibie. Parce que nous sommes au milieu du développement de l'Afrique. Donc les Américains
voilà.
Sont contre.
Alors, je crois que vous en appelez au chef de l'État de pouvoir tourner les méninges, de cogiter sur le partenariat stratégique, si je comprends bien, et inscrire dans ce partenariat stratégique les besoins réels de la population. Voilà. Vous avez cité la sécurité.
Voilà.
Vous avez cité... Oui.
Il doit axer son discours sur des besoins réels. Besoin numéro 1, c'est la défense du territoire national. Besoin numéro 2, amener les investisseurs avec la technologie, c'est-à-dire ce que nous appelons le transfert de la haute technologie. Ils doivent aussi transférer la technologie, ils ne peuvent pas venir prendre. Ils doivent nous enseigner, nous expliquer comment extraire, comment capitaliser, comment développer. Et nous allons nous développer, bien entendu, ils vont gagner, mais nous serons les plus grands bénéficiaires.
Voilà.
En fait, c'est sur le plan aussi culturel.
Oui.
Vous avez parlé de Melissa Well.
Oui.
Mais moi, j'ai eu la chance de voir la dame à son temps. Quelqu'un qui s'est préoccupé du Congo, Coco Swing. Maintenant, là, il y a Tata Nzita qui est là. Ils sont là, ils peuvent nous aider. Ils
ne
se considèrent presque plus comme des Américains. Ils sont devenus un peu congolais.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, Augustin Mangemossi, chef des travaux à l'ULK, analyste et expert en relations internationales et géostratégiques. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt pour un autre débat.
Merci à vous.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. C'était un réel plaisir de partager ces 57 minutes interactives ensemble avec vous, ici au pays et à l'étranger. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à Polydor Basunga qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapoukou. À très bientôt pour un autre numéro.